Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire le yoga et la santé. Ce sont des extraits des œuvres de la mère. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le chapitre 6 qui se nomme l'enveloppe nerveuse. Alors, chapitre 6 du yoga et la santé, l'enveloppe nerveuse. Le corps vital entoure le corps physique d'une sorte d'enveloppe qui a à peu près la densité de ces vibrations de chaleur que l'on observe quand il fait très chaud. Et c'est cela qui est l'intermédiaire entre le corps subtil et le corps vital le plus matériel. C'est cela qui protège le corps contre toutes les contagions, les fatigues, les surmenages et même les accidents. Alors, si cette enveloppe est complètement intacte, elle vous protège de tout. Mais il suffit d'une émotion un peu trop forte, d'une fatigue, d'un mécontentement, d'un choc quelconque pour qu'elle soit comme égratignée, et une toute petite égratignure permet n'importe quelle intrusion. La science médicale aussi s'est aperçue que si l'on est en parfait état vital, on n'attrape pas de maladie, ou en tout cas, on a une sorte d'immunité aux contagions. Si vous avez cet équilibre, cette harmonie intérieure qui garde l'enveloppe intacte, elle vous protège de tout. Il y a des gens aussi qui mènent une vie tout à fait ordinaire, qui savent dormir comme il faut, manger comme il faut, et leur enveloppe nerveuse est si intacte qu'ils passent à travers tous les dangers comme si cela ne les regardait pas. C'est une capacité que l'on peut éduquer en soi. Si l'on devient conscient du point faible de son enveloppe, il suffit parfois de quelques minutes de concentration, d'appel de force, de paix intérieure pour que cela s'arrange, se guérisse, et que la chose malencontreuse disparaisse. Le 27 janvier 1951. Une protection parfaite de l'enveloppe nerveuse. Que la cause d'une maladie soit matérielle, ou mentale, extérieure ou intérieure, elle doit avant tout avoir de pouvoir affecter le corps physique. Elle doit, avant de pouvoir affecter le corps physique, toucher une autre couche de l'être qui entoure et protège votre corps. Cette couche plus subtile est appelée de différents noms dans les différents enseignements, le sous-degré nerveux, le double éthérique, l'enveloppe nerveuse. C'est ce corps subtil et pourtant presque visible. Il ressemble en densité aux vibrations que l'on perçoit autour d'un objet très chaud. Il émane du corps physique et le recouvre étroitement. Toutes les communications avec le monde extérieur se font à travers cet intermédiaire. Et c'est celui-là qui doit être pénétré et envahi avant que le corps puisse en être atteint. Si cette enveloppe est absolument forte et intacte, on peut aller dans des endroits infectés des pires maladies, même de la peste ou du choléra, avec une impunité totale. C'est la plus efficace des protections contre toutes les attaques possibles de maladies, Et pour cela, il faut que cette enveloppe soit consciente, complète et entière d'une constitution cohérente, composée d'éléments en parfait équilibre. Ce corps subtil est construit d'une part avec la base matérielle faite de conditions matérielles plutôt que de conditions physiques, et d'autre part avec les vibrations de nos états psychologiques. Ce deuxième élément en lui est constitué par la paix, l'égalité d'âme, la confiance, la foi en la santé, un repos et une bonne humeur invariables, un brillant contentement qui lui donne sa force et sa substance. C'est un intermédiaire très sensible qui a des réactions faciles et promptes. Il est ouvert à toutes sortes de suggestions et celles-ci peuvent en un moment changer et presque reformer sa condition. Une suggestion quelque part, une maladie s'installe. Tout cela parce que vous n'étiez pas suffisamment alerté. Et parfois on est obligé de suivre toute la cour pour retrouver le sommet favorable et se débarrasser de l'affaire. J'ai dit quelque part que dans le domaine physique, tout est une question de procédé. Il faut un procédé pour réaliser toute chose. Et si la maladie a réussi à toucher le physique, eh bien il faut suivre le procédé pour arriver à s'en débarrasser. C'est ce que la science médicale appelle le cours de la maladie. On peut hâter ce cours à l'aide des forces spirituelles, mais tout de même, il faut suivre le procédé. Il y a comme 4 stades différents. Le tout premier est instantané. Le deuxième peut se faire en quelques minutes. Le troisième peut prendre plusieurs heures et le quatrième plusieurs jours. Et alors là, une fois que la chose est installée, tout dépendra non seulement de la réceptivité du corps, mais encore de la bonne volonté de la partie qui est la cause du désordre. N'est-ce pas quand la chose vient du dehors? Elle est en affinité avec quelque chose au-dedans. Si ça arrive à passer, à entrer, sans que l'on s'en aperçoive, c'est qu'il y a une affinité quelque part. Et c'est que cette partie de l'être qui a répondu qu'il faut convaincre. J'ai connu des cas vraiment extraordinaires. Si vous pouvez, au moment, tenez, prenons un exemple qui est tout à fait concret, un coup de soleil. Cela vous arrive considérablement, c'est l'une des choses qui vous rend le plus malade. Un coup de soleil dérange tout. Il dérange les fonctions intérieures. Il donne généralement une congestion à la tête et une fièvre très forte. Alors, si c'est arrivé, s'il a réussi à passer la protection, à entrer en vous, eh bien, si vous pouvez simplement entrer dans un endroit tranquille, vous étendre tout à fait à plat, sortir de votre corps, naturellement, il faut apprendre. Il y a des gens qui le font spontanément, pour d'autres, il y a une longue discipline. Sortir de son corps, rester au-dessus de façon que l'on puisse voir son corps. Vous connaissez le phénomène, voir son corps quand on est dehors. Cela se peut se faire à volonté, sortir de son corps et se trouver juste au-dessus. Le corps est étendu sur un lit, un banc, un sol, n'importe quoi. Vous êtes étendu juste au-dessus et de là, consciemment. Vous tirez la force d'en haut. Et si vous en avez l'habitude, si votre aspiration est suffisante et que vous avez la réponse, et alors là, de là, en ayant soin de ne pas rester dans votre corps, vous commencez à pousser cette force sur le corps, comme cela, régulièrement, jusqu'à ce que vous voyez que le corps reçoit. Car les premiers moments, cela n'entre pas, parce que le corps est tout à fait dérangé avec sa maladie. Il n'est pas réceptif, il est crispé. Vous pouvez pousser doucement, doucement, tranquillement, sans énervement, très paisiblement sur le corps. Mais il ne faut pas que l'on vous dérange. Si quelqu'un vient et vous voit étendu et vous secoue, c'est extrêmement dangereux. Il faut le faire dans des conditions très tranquilles, demander aux gens de ne pas vous déranger ou bien vous enfermer à un endroit où ils ne peuvent pas vous déranger. Mais on peut se concentrer lentement, cela prend plus ou moins de temps. Cela dépend de l'importance du désordre qui s'est créé. Lentement, de là-haut, vous concentrez la force jusqu'à ce que vous voyez que le corps reçoit, que la force entre, que le désordre se rétablit et que la détente se produit dans le corps lui-même. Une fois que c'est fait, vous pouvez entrer et vous êtes guéri. Cela s'est fait pour un coup de soleil, qui est une chose assez violente, et aussi pour la fièvre typhoïde, et pour beaucoup d'autres choses, comme par exemple un foie qui s'est soudain dérangé pour une raison quelconque, par une indigestion, mais le foie qui ne fonctionne plus convenablement, on peut le guérir aussi de la même manière. Il y a eu le choléra qui a été guéri comme cela. Le choléra avait été juste attrapé, c'est entré. Ce n'était pas encore établi, mais il a été guéri complètement. Par conséquent, quand je dis que si l'on maîtrise la force spirituelle, que l'on sait s'en servir, il n'est pas de maladie que l'on ne puisse guérir. Je le dis, je ne le dis pas comme cela en l'air, c'est dit avec l'expérience de la chose. Naturellement, on me dira que l'on ne sait pas sortir de son corps, attirer la force, la concentrer, avoir toute cette maîtrise. Ce n'est pas très fréquent. Ce n'est pas impossible. Cela se fait. Ce n'est pas impossible. Et on peut avoir confiance que si l'on est aidé. En fait, il y a un procédé beaucoup plus commode. C'est d'appeler au secours. Mais la condition dans tous les cas, que l'on fasse soi-même et en ne dépendant que de soi-même, que l'on le fasse en demandant à quelqu'un de le faire pour soi, la première condition, pas de peur, et être très tranquille. Si vous commencez à bouillonner, à vous énerver dans votre corps, c'est fini, vous ne pouvez rien faire. Pour toute chose, vivre la vie spirituelle, guérir les maladies, pour toute chose, il faut rester très tranquille. 31 mars 1951. Alors, je voudrais vous lire aussi quelque chose sur les accidents. C'est le chapitre 7, Être éveillé à chaque instant de sa vie. Il y a une minute de choix même dans un accident. Par exemple, on glisse et on tombe juste entre le moment où l'on a glissé et le moment où l'on tombe. Il y a une fraction de seconde. À ce moment-là, on a le choix. Ça ne peut être rien, ça peut être grave. Seulement, naturellement, il faut avoir la conscience, tout à fait éveillée et être en rapport avec son être psychique constamment. On n'a pas le temps de se mettre en rapport, il faut être en rapport entre le moment où l'on glisse et le moment où l'on est par terre. Si la formation mentale et psychique est suffisante, ce n'est rien. Il n'arrive rien, il n'arrive rien. Tandis que si, à ce moment-là, le mental est, selon son habitude, un pessimiste et qu'il dise « Ah, j'ai glissé », ça dure une fraction de seconde, et pendant une fraction de seconde, on a le choix. Mais il faut être tellement éveillé à chaque minute de sa vie. Si on la manque, c'est fini. Question. On peut le faire après? Non. Après, il y a encore un autre moment. On est tombé. On s'est fait déjà mal. Mais il y a encore un moment où l'on peut faire que cela tourne du bon côté ou du mauvais côté. Que ce soit quelque chose de très fugitif, dont tous les mauvais effets disparaîtront très vite, ou quelque chose qui reviendra aussi sérieux, aussi grave, que cela peut être. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a des personnes qui jamais ne manquent l'occasion d'un accident. Chaque fois qu'il y a la possibilité d'un accident, ils l'ont, elles l'ont. Et jamais leur accident n'est ordinaire. Chaque fois que l'accident peut être sérieux, il est sérieux. Mais cela ne dépend pas de la pensée, du fonctionnement de la pensée ordinaire. Ils peuvent être apparemment avec des pensées aussi bonnes que les autres. Ce n'est pas cela. C'est toujours la seconde du choix. Des gens qui savent réagir juste de la bonne façon à la bonne minute. Je pourrais donner des centaines d'exemples. C'est tout à fait intéressant. Cela dépend absolument des caractères. Certains ont une conscience tellement éveillée, toujours en alerte, qu'ils ne sont pas endormis. Ils sont éveillés au-dedans d'eux-mêmes, juste à la seconde où il faut, et ils appellent à l'aide, où ils invoquent la force divine. Mais juste à la seconde où il faut, alors le danger est écarté, il ne se passe rien. Ils auraient pu se tuer, ils sortent de là absolument indemnes. D'autres, au contraire, dès qu'il leur arrive la moindre petite égratignure, il y a quelque chose qui se disloque dans leur être. Une sorte de frayeur, de pessimisme ou de défaitisme dans leur conscience qui se produit automatiquement. Ce n'était rien. Ils se sont tordus le pied et la minute d'après, ils se la cassent. Il n'y a aucune raison. Ils auraient très bien pu ne pas se casser le pied. Alors quoi, de quoi cela dépend? Cela dépend si l'on est suffisamment éveillé pour qu'à la seconde du choix, Et notez que ce n'est pas du tout mental, ce n'est pas cela. C'est une attitude de l'être. C'est la conscience qui réagit de la bonne manière. Ça, c'est très loin, très loin. C'est formidable le pouvoir de cette attitude. Mais comme c'est une fraction de seconde, cela implique une conscience tout à fait éveillée, qui ne s'endort jamais, qui n'entre jamais dans l'inconscient, parce que l'on ne sait pas que comment ça va arriver. Par conséquent, on n'a pas le temps de se réveiller. Il faut être toujours éveillé. Huit. Médecins et médicaments. Je vais terminer sur ce chapitre. La médecine est un sacerdoce. La vérité est l'harmonie suprême. Suprême félicité. Toute confusion, toute souffrance est un mensonge. Ainsi peut-on dire que les maladies sont un mensonge du corps et en conséquence que les médecins sont des soldats appartenant à la grande et noble armée de ceux qui dans le monde luttent pour la vérité. Si l'on considère le corps comme le tabernacle du divin, la science médicale, par exemple, devient un rituel initiatique au service du temple, et les médecins de tout genre sont les prêtres officiants de différents rituels du culte. Ainsi, la médecine est vraiment un sacerdoce et doit être traitée comme telle. La même chose peut être dite de la culture physique et de toutes les sciences qui s'occupe du corps et de son fonctionnement. Si l'on considère l'univers matériel comme le revêtement extérieur et la manifestation du suprême, alors on peut dire, d'une façon générale, que toutes les sciences physiques sont les rituels du culte. Un esprit large et généreux, un cœur généreux, une volonté inébranlable, une calme et ferme détermination, une énergie inépuisable et une foi totale en sa mission. Voilà ce qui fait un médecin parfait. À vos connaissances et à votre expérience médicale, ajoutez une foi absolue en la grâce divine et votre pouvoir de guérison sera illimité. Une maladie, après tout, n'est qu'une mauvaise attitude prise par quelque partie du corps. Le rôle principal des docteurs est de convaincre le corps, par des moyens divers, de retrouver sa conscience et sa confiance en la grâce suprême. Il est vrai que la foi guérit mieux qu'un traitement. Tu pourras suivre le traitement du docteur et demander l'aide du divin. La seule chose que je puisse suggérer au sujet des maladies, c'est d'appeler et de faire descendre la paix. Gardez votre mental détaché du corps par n'importe quel moyen. La lecture des œuvres de Sri Aurobindo ou la méditation, c'est quand on est dans cet état que la grâce agit. Or, seule la grâce peut guérir. Les médicaments ne font que donner une confiance au corps, c'est tout. Dans tous les cas, c'est la force qui guérit. Les médicaments ont très peu d'effet c'est la foi dans les médecines qui guérissent, qui guérit. Faites-vous soigner par un docteur en qui vous avez confiance et ne prenez que les médicaments qui vous inspirent confiance. Le corps n'a confiance que dans les moyens matériels. C'est pourquoi il faut lui donner des médecines, mais des médecines n'ont de l'effet que si la force agit à travers eux. Toute la valeur d'un médicament est dans l'esprit qu'il contient. Je conseillerais de ne se servir des médecines que lorsqu'il est absolument impossible de faire autrement. Et cet absolument impossible doit être rigoureux. Les médicaments aident le corps à avoir confiance. Dans presque tous les cas, il y a des choses qui aident un peu, pourvu que ce soit dans une mesure raisonnable. Si ce n'est plus dans une mesure raisonnable, vous êtes sûr de vous détraquer complètement. Vous guérissez une chose et vous en attrapez une autre, qui est pire généralement. Mais enfin, une petite aide comme cela, un petit quelque chose qui donne confiance à votre corps. Maintenant, ça va aller. Maintenant, j'ai pris cela, ça ira bien. Ça l'aide beaucoup et il décide de guérir et il guérit. Là aussi, il y a toute une échelle de possibilités. Depuis le yogi qui est dans un état si parfait de contrôle intérieur qu'il pourrait prendre un poison sans que cela l'empoisonne, jusqu'à celui qui, au moindre bobo, se précipite chez le médecin et qui a besoin de toutes sortes de drogues spéciales pour pouvoir obtenir de son corps le mouvement nécessaire pour guérir. Il y a toute une échelle possible de la maîtrise totale, suprême, jusqu'à l'esclavage total aussi, et à tous les adjudants, les adjuvants extérieurs et tout ce que vous absorbez du dehors. Un esclavage est une libération parfaite. Il y a toute l'échelle. Alors tout est possible. C'est comme un grand clavier très complexe et très complet sur lequel on peut jouer et le corps et l'instrument. Le 19 juin 1957. Je termine sur ce chapitre 8. Médecins et médicaments, je remercie infiniment Douce-Mère pour ces extraits qu'elle nous a permis de lire et de relire pour aider cet instrument qu'elle nous a donné pour la servir. Merci, Douce-Mère. Merci infiniment. Merci, Sri Aurobindo. Ganga Lakshmi.